Dans les premiers versets, nous allons voir, dans les versets 7 à 12, on voit que Marc nous montre la renommée extraordinaire de Jésus. Vous avez vu au verset 7 et 8, il est parlé d'une grande multitude. Je ne sais pas ce que c'est qu'une multitude, déjà ça me paraît un peu beaucoup, mais une grande multitude. On parle ici de plusieurs milliers de personnes, certains commentateurs parlent de dizaines de milliers. Et toute cette multitude le suit. Il s'agit ici d'une multitude qui vient de tous les coins du pays. Vous avez remarqué, encore dans les versets 7 et 8, il nous est parlé du nord, du centre, du sud, de l'est. À l'ouest, c'est la mer. Les poissons sont pas véritablement concernés. Mais il y a même aussi Tyr et Sidon qui est encore plus au nord, cette fois-ci dans l'actuel Liban. Il y a des gens qui viennent des grandes villes, de Jérusalem, mais aussi des gens qui viennent des villages, et même des villages éloignés, au-delà du Jourdain. Ces milliers de personnes se pressent pour assister à des manifestations miraculeuses, uniques dans l'histoire. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les démoniaques sont délivrés. C'est simplement miraculeux. Et la foule se presse. C'est bien ici la démonstration que Jésus est bien celui qu'il prétendait être, à savoir le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Il montre également par là combien il a de compassion, combien il aime la foule et qu'il se préoccupe de ses besoins. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes là ce matin. Mais certainement, c'est Jésus qui vous attire, sa personne. Vous êtes attiré peut-être parce que vous avez des besoins, toutes sortes de besoins émotionnels, physiques, spirituels. Vous avez des besoins, vous avez une certaine faim et vous venez vers lui. Et Dieu veut répondre à vos besoins. Mais plus encore que cela, il discerne des besoins plus profonds encore en vous. Et il veut vous faire connaître ces choses-là. Il veut pas simplement répondre comme le docteur répond et nous... Non, il veut entrer dans notre vie. Il veut vivre avec nous. Il veut nous apporter beaucoup plus que simplement un besoin. Répondre à un besoin. Cette foule ne suit pas vraiment Jésus. La foule ici, elle suit celui qui fait les miracles. Et au fond, si un autre fait des miracles, eh bien, et si c'est plus près, ils iront vers lui. Ou si Jésus arrête de faire des miracles, ils arrêteront de le suivre. Jésus n'est pas venu pour que les foules de mécontents, de malheureux, qui sortent chaque samedi, reçoivent plus de pain, plus de santé, plus de liberté, plus d'éducation, plus de confort. Mais il est venu pour instaurer son royaume dans nos vies, dans nos cœurs. Il est venu pour faire des disciples de Jésus-Christ. Il est venu pour procurer à la multitude la satisfaction, la paix, le repos du cœur et la joie éternelle. Et tout cela provient du fait que l'on est disciple de Jésus-Christ. Et donc, quelle est la méthode que Jésus emploie pour faire des disciples? On va voir ça ce matin. Choisir quelques-uns, être avec Jésus, vivre avec ses frères et puis ensuite annoncer la bonne nouvelle. Regardons tout d'abord choisir quelques-uns. Jésus, il est réaliste. Et quand il regarde la foule qui se presse, il sait que même si les foules sont prêtes à le suivre momentanément, il sait qu'il ne peut pas leur accorder pendant son séjour sur la terre toute l'attention personnelle, toute une relation entière avec lui. Et donc, sa méthode, c'est de choisir et de former quelques personnes, quelques hommes ici, inspiré par sa vie, qui feront la même chose avec d'autres, pour qu'en fin de compte, tous entendent et voient et qu'une multitude soit sauvée. Le Seigneur a choisi ici 12 disciples pour les avoir avec lui. Ils sont tous différents dans leur statut social. Il y a des fils de Jonas, ça c'est des artisans. Il y a les fils de Zébédée, c'est les fils d'un patron de PME. Il y a des hommes de convictions politiques différentes. Il y a Matthieu qui est un ancien publicain, c'est-à-dire un collabo, repenti quand même. Il y a Simon, le zélote, c'est un patriote. Il y avait des copains d'enfance et puis il y avait des nouveaux arrivants. Il y avait des personnalités tumultueuses. On voit ici comment Jacques et Jean sont appelés les fils du tonnerre. Ça nous en dit long sur leur personnalité, sur leur tempérament. Et puis il y avait d'autres personnalités plus effacées. Il y avait un Barthélemy qui est appelé un homme honnête dans lequel il n'y a pas de fraude. Et puis il y avait un Judas qui était un voleur et un trompeur. Il y avait des leaders, puis il y avait des suiveurs. Ils étaient des gens, au fond, très ordinaires, avec un CV banal. Ils n'étaient pas des religieux, ils n'avaient pas un niveau d'instruction élevé, aucun n'avait de qualification impressionnante, mais ce sont des hommes qui ont fait des disciples, et ces hommes qui ont fait des disciples ont fait eux-mêmes des disciples, pour que la bonne nouvelle nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Si à notre tour, nous voulons faire des disciples, nous devons suivre la même méthode. Choisir quelques-uns dans lesquels nous allons investir du temps. On ne peut pas être avec tout le monde, dans la même relation d'intimité. Par contre, on peut avoir une certaine intimité avec quelques-uns. Comment faire? Comment choisir, au fond, quelques-uns? Peut-être nous devrions commencer par prier et demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi avec qui je pourrais tisser un lien plus étroit, une amitié plus sincère, plus profonde, plus authentique. » Et puis, c'est ce que Jésus a fait, hein, il a prié avant de choisir ses disciples. Et puis, qui choisir? Peut-être des gens de votre entourage d'abord. Ceux qui sont déjà autour de vous, la famille, les collègues, les amis, les voisins, les frères et sœurs de l'Église. De préférence, choisissez quelqu'un du même sexe pour éviter les ambiguïtés dans la relation. Peut-être choisissez quelqu'un de votre âge, peut-être un peu plus jeune que vous, un peu plus jeune dans la foi. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager votre vie. Même si on peut apprendre de tous, bien sûr. Choisissez quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer régulièrement. Quelqu'un qui est disponible aux mêmes heures que vous. Quelqu'un qui habite pas trop loin de chez vous ou pas trop loin de votre lieu de travail, avec lequel vous allez pouvoir vous rencontrer facilement. Choisissez surtout quelqu'un qui soit enseignable. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui veut découvrir les vérités. Sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Quelqu'un qui veut connaître. Hein, personne parmi les 12 que Jésus a choisi n'a dit « Oh mince, il m'a choisi, il m'appelle ». Non, tous étaient volontaires pour le suivre. Et nous aussi, on a besoin d'avoir des gens qui sont désireux, qui veulent avancer, qui veulent suivre. Enfin, ne soyez pas trop ambitieux. Hein, Jésus en a choisi 12. Ne pensez pas que vous seriez capable d'en choisir 20 et de les suivre. La deuxième pensée, c'est être avec Jésus. Vous avez remarqué, dans le verset 13 et 14, il dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Pour les avoir avec lui. Depuis quelque temps, j'ai décidé d'apprendre à faire un peu de mécanique. Je pars en fait de très loin quand même. J'avais aucune idée à quoi pouvait ressembler un carburateur de 125 cm3. J'avais aucune idée où est-ce que ça pouvait se trouver. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé un tuto. J'ai trouvé les tutos, et c'est formidable les tutos, les tutoriels, hein, c'est les modes d'emploi en ligne. En fait, avec les tutos, il y a chaque question que vous pouvez avoir, chaque interrogation a une réponse en image. La chose que vous vous demandez le plus, elle y est déjà. C'est en ligne. Du plus farfelu au plus pratique. Vous pouvez apprendre à vous maquiller pour la Saint-Valentin. C'est raté pour cette année, mais vous pouvez apprendre à installer un va-et-vient dans votre salon sans faire fondre les plombs. Cuisiner une tête de veau ravigote. Vous pouvez changer une roue, une rotule de direction. Ça, c'est pour bientôt pour moi. Peindre une aquarelle. Déboucher un lavabo sans démonter le siphon. Faire un élevage de lapins. Hein, et... Voilà, vous pouvez tout apprendre sur un tuto. Vous pouvez même apprendre à faire des tutos. Mais il n'y a pas de tuto pour être disciple de Jésus-Christ. Cherchez pas, il n'y a pas de tuto. Être un disciple de Christ, c'est pas une affaire de compétence. C'est pas une leçon que l'on apprend, ce n'est pas une recette que l'on regarde, que l'on suit. Suivre Christ, c'est pas simplement emprunter les mêmes chemins que lui, sinon simplement il nous faudrait une carte ou un GPS. Être un disciple de Christ, c'est être comme Christ. Jésus a dit ça. Il a dit, tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est penser, agir, aimer comme Christ. Et ça ne prend pas sur un tuto de 15 minutes, non. Mais dans une relation personnelle avec Christ, toute une vie. On n'a jamais fini d'être un disciple. On n'a jamais fini d'apprendre. Et Jésus les a invités à venir avec lui, de le suivre, de le voir dès le matin. Jésus aimait ces hommes. Si vous voulez faire des disciples, il faut aimer les gens que vous invitez à partager votre vie. Il les servait, il les enseignait, il les encourageait. Il les corrigeait même parfois. Il cheminait avec eux. Il a passé plus de temps avec eux qu'avec toutes les personnes rencontrées au cours de son ministère. Ensemble, ils ont marché sur des chemins désertiques. Ils ont visité des villes qui grouillaient de monde. Ils ont navigué et pêché sur le lac de Tibériade. Ils ont prié avec lui dans le désert, sur les montagnes, dans les synagogues, dans le temple. Jésus, il partageait sa vie. Et il leur apprenait ainsi comment vivre, comment aimer. Jésus, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré parfois fatigué par les marches, les voyages. Il s'est montré troublé dans son âme. Il s'est montré triste jusqu'à la mort. Il s'est montré ému de compassion pour les foules. Lui, le Fils de Dieu, il a demandé la prière à ses disciples, à ses amis. Les disciples l'ont vu pleurer de chagrin à la mort de Lazare et aussi rempli d'admiration en voyant la foi d'un centurion. Ils l'ont vu plein de compassion, d'amour pour une veuve. Oui, Jésus, il a partagé sa vie. On trouve rarement Jésus tout seul dans les évangiles. Sa vie, elle était comme un livre ouvert pour ses disciples, au regard de ses disciples. Ils étaient là, à ses côtés, lorsqu'il apparaissait glorieux et tout-puissant lors de ses miracles ou lorsqu'il est transfiguré sur la montagne, mais aussi bien que lorsqu'il apparaissait dépendant du Père dans la prière, obéissant, avec des émotions toutes humaines. En fait, la formation de disciples, ça s'apparente beaucoup plus à ce que fait un père ou une mère avec ses enfants que ce que fait un professeur avec ses élèves. Un prof, il donne un enseignement et puis il s'en va. Les parents, eux, ils demeurent. Ils restent là. Les élèves, ils retiennent, ou pas, ce que dit le prof. Les enfants, ils retiennent ce que leurs parents sont. Ils imitent ce qu'ils font. Vous avez déjà vu vos enfants? Je me souviens d'un de mes fils, le dimanche matin, on était toujours assis plus ou moins devant, il venait devant discrètement, il partait de sa chaise et puis il avait son cantique, il savait pas encore lire, il avait le cantique à l'envers et puis il chantait comme ça, il se tournait vers l'église et il chantait là. Il imite son père, il imite ce qu'il nous voit faire. Ce qui est une merveilleuse nouvelle et une terrifiante nouvelle. Vous voyez pourquoi. Nous aussi, nous sommes invités à être avec Jésus, à entrer dans son cercle intime, à l'observer dans sa parole, à nous tenir dans sa présence, à lui parler dans la prière, à l'admirer dans sa compassion, dans sa puissance, dans son obéissance, dans son amour. Lorsqu'on admire quelqu'un, on veut lui ressembler, parler comme lui, agir comme lui, on voudrait même penser comme lui. En fait, à force d'être avec lui, on lui ressemble. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous offre sa présence, il nous offre sa personne. On peut la découvrir tous les jours, maintenant qu'il a mis sa vie par écrit dans sa parole, dans les évangiles. Maintenant qu'il a laissé son esprit dans nos cœurs, il peut être tous les jours avec nous pour qu'on puisse apprendre à le connaître, à le découvrir. Mais la méthode de Jésus, c'est aussi... former un groupe, une église. Dans nos préparations au mariage, on dit souvent que le mariage est un révélateur de péché. C'est pas de nous, cette expression. Mais c'est vrai, le mariage est un révélateur de péché. Si vous voulez pas que votre péché soit révélé, ne vous mariez pas. En fait, quand on est célibataire ou fiancé, qu'on commence à fréquenter, on fait bien attention dans nos rendez-vous galants à apparaître sous le meilleur jour. Alors, avant un rendez-vous, on regarde un tuto sur l'accord chaussette-chemise. On fait bien attention aux odeurs que nous pourrions dégager. Oh, la laine. On est très attentif à toutes ces choses. Mais une fois marié, votre conjoint vous découvre tel que vous êtes. Et là, il vous découvre sans maquillage, dans vos faiblesses, dans votre péché, égoïste, colérique, peut-être avare. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est devenue cette princesse que j'avais épousée? Ou qu'est devenu ce prince charmant? Mais au fond, vous saviez que vous avez épousé un pécheur. Quelque part, vous le saviez. Et il n'y a pas de raison de paniquer à ce moment-là. Le mariage offre le cadre sécurisé de l'amour inconditionnel. Vous vous souvenez? On a promis de s'aimer dans les bons et dans les mauvais jours. Quand les mauvais jours, c'est quoi? Les mauvais jours, c'est en particulier quand on découvre que son conjoint est un pécheur. Mais on a promis, je vais t'aimer de la même manière quand t'es le prince charmant ou la princesse et quand t'es pécheur. Et donc ça offre ce cadre sécurisé. Le mariage, c'est simplement le révélateur de notre nature, de notre vraie nature, qu'on avait réussi plus ou moins à camoufler jusque-là. Et c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Peut-être ça peut sembler, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que nous avons besoin de démasquer notre péché, pour qu'il soit pardonné et éradiqué. Mais le mariage chrétien offre également l'occasion de combattre notre péché avec notre conjoint. Lorsque notre péché est révélé dans le mariage, il ne s'agit pas de le nier ou de le cacher ou de le justifier ou d'accuser l'autre de toutes ses erreurs. Lui aussi, c'est un pécheur. Non. Il s'agit plutôt de confesser à Christ son péché et de le combattre. Et notre conjoint devient alors notre compagnon de combat contre notre péché. Ensemble, nous luttons et nous nous encourageons à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et donc, en réunissant 12 hommes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'est-ce que Jésus voulait faire? Il voulait simplement qu'ils apparaissent les uns aux autres tels qu'ils sont réellement. Qu'ils apparaissent dans les évangiles craintifs, orgueilleux, lents à croire, jaloux ou présomptueux, lents à comprendre, durs, endormis lorsqu'il fallait veiller, ou lâches au moment de l'arrestation. Et l'Église offre ce cadre. On peut être tel que l'on est, pécheur, défaillant, égoïste. Et c'est pour ça que dans l'Église, un jour ou l'autre, on est déçu. Un jour ou l'autre, on est blessé par quelqu'un, souvent par les pasteurs. Parce que l'Église, c'est simplement un lieu où on peut révéler notre péché et le combattre. L'Église est une famille qui offre le cadre aimant et sécurisé dans lequel nos péchés peuvent être dévoilés, confessés et combattus. Vous voyez, le dimanche matin, on peut agir en fiancé avec nos frères et sœurs. On se montre sous le meilleur jour. On a mis nos beaux vêtements. On fait un effort pour mettre sur notre visage le beau sourire dont on a privé les siens juste avant. On tient des propos bienveillants les uns envers les autres, alors que, qu'en semaine, on s'est montré dur et indifférent avec ceux de notre maison ou avec nos collègues. On chante avec joie et à plein poumon les louanges du Seigneur, alors que les nôtres nous ont entendus gémir et nous plaindre toute la semaine. Non, on doit apprendre à vivre les uns avec les autres comme dans le mariage, comme on est véritablement. Ce qui immanquablement suppose que l'on va être découvert défaillant, pécheur. Jésus a choisi 12 pour qu'ils vivent ensemble. Non pas pour qu'ils se jugent les uns les autres, qu'ils se condamnent ou s'élèvent aux dépens les uns des autres, mais pour qu'ils puissent vivre des relations authentiques qui les pousse à combattre leur nature pécheresse et recherche la ressemblance au maître. L'Église, c'est vraiment une famille qui offre le cadre sécurisé et aimant pour vivre des relations authentiques. C'est sécurisé, l'Église. Tous ceux qui forment l'Église sont des enfants de Dieu, des rachetés par pure grâce. Ils ont été adoptés par lui à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Une personne ainsi adoptée, elle ne peut pas déchoir de son statut d'enfant adopté. Vous pouvez être un enfant indigne, ingrat, rebelle, mais vous restez et vous demeurez un enfant, un fils ou une fille de Dieu. L'Église, c'est un cadre aimant. Parce que ce qui caractérise cette famille, c'est l'amour du Père. L'amour dont le Père nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés pécheurs, rebelles, éloignés de lui. Il nous a aimés au plus haut point en livrant sa vie en sacrifice pour nos offenses. Et cet amour-là, déversé dans notre cœur, nous aide à l'aimer en retour. Et à aimer nos frères et sœurs. De la même manière, de cet amour inconditionnel. Son amour est inconditionnel parce qu'il ne dépend pas de notre obéissance. Et c'est de cet amour divin dont nous devons nous aimer. Ainsi, le cadre est vraiment sécurisé, parce que vous ne pourrez jamais être moins ou plus que ce que vous n'êtes déjà, un enfant de Dieu. Et le cadre est définitivement aimant, parce que l'amour dont vous êtes aimé ne dépend pas de vos performances. Maintenant, la famille de Dieu ne cesse de grandir. Et il est évident que si nous devons aimer tous nos frères et sœurs, nous ne pouvons nourrir une communion intime avec tous nos frères et sœurs. Jésus a établi un groupe de 12, et parmi même ces 12, il est évident qu'il avait plus d'intimité avec les 4 premiers de la liste. Et que les 4 suivants étaient un peu moins, mais un peu plus que les 4 derniers. Et personne n'en était affecté. Les relations étaient aimantes avec tous. Nous aussi, on ne peut pas partager le même niveau d'intimité fraternelle avec tous les frères. Mais on devrait avoir chacun un cercle dans lequel on peut vraiment partager nos vies. Les cellules en semaine offrent vraiment ce cercle dans lequel on peut être authentique. Ou les groupes de croissance, où l'on s'encourage dans la lecture, dans la compréhension, dans l'application de la parole de Dieu à notre vie, dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est dans un petit groupe, un petit cas, dans une relation plus intime, que l'on peut partager nos luttes, nos combats, que les gens vont prendre part à nos joies et nous soutenir dans nos peines. C'est dans un plus petit groupe que l'on va se porter réciproquement dans la prière. C'est dans un plus petit groupe qu'on va pouvoir partager « J'ai tel ami que j'aimerais voir à la fois. J'aimerais tellement lui partager. » Mais on va prier pour lui. Un plus petit groupe pour pouvoir partager, un groupe d'intimes. La dernière partie de la méthode, c'est que Jésus nous a choisi pour nous avoir avec lui et pour nous envoyer prêcher. Vous avez remarqué ça, verset 15? Et pour les envoyer prêcher. Pour les envoyer annoncer l'évangile. Vous avez remarqué le « et » c'est pas optionnel. Un disciple est quelqu'un qui est avec Jésus et qui annonce Jésus aux autres. Quand Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est-à-dire, s'engager à suivre Jésus-Christ, c'est aussi s'engager à être un pêcheur d'hommes. Annoncer Jésus-Christ. Et là, je veux faire 3 remarques. La première, c'est que il n'a pas attendu 3 ans pour les envoyer annoncer l'évangile. Regardez dans quelques versets plus loin, au chapitre 6 et au verset 7. Il est dit « Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Puis verset 12, « Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » On a parfois fait de l'annonce de l'évangile un travail qui nécessite une formation particulière avant de se lancer. Du coup, personne ne se sent suffisamment capable, équipé pour partager sa foi. Non. Vous pouvez dire simplement ce que Jésus a fait pour vous, ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Dimanche prochain, on fait une formation. Et cette formation, elle a pour objectif non pas de vous apprendre comment est-ce qu'il faut parler à un tel. Non, c'est, elle a principalement pour vocation de nous montrer comment l'être. Simplement. De nous envoyer, de nous pousser à le faire. On va enlever dans cette formation toutes les craintes qui peuvent animer nos cœurs. Mais la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que l'équipement qui nous est donné c'est la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un super diplôme parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est le seul, la seule personne indispensable pour nous conduire à être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Il est dit ici, verset 15, « avec le pouvoir de chasser les démons ». Il y a visiblement une opposition diabolique à l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire, le diable n'est pas content, il n'aime pas cela. Et c'est pour ça que Dieu nous a équipés du Saint-Esprit pour pouvoir faire cette œuvre. C'est la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que le royaume des ténèbres recule. Dans le chapitre 3, juste après notre passage, Jésus est accusé par des chefs religieux de délivrer des démons par la puissance du prince des démons. Et il dit, mais ça n'a aucun sens ce que vous dites. Comment est-ce que le prince des démons pourrait être divisé contre lui-même? Ça n'a pas de sens. Et il dit, c'est par le Saint-Esprit que je fais ces choses. Et le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans notre témoignage. Avez-vous déjà réfléchi pour quelle raison Dieu vous a mis son esprit au-dedans de votre cœur? Le Nouveau Testament apporte plusieurs réponses à cette question. Mais son objectif principal est celui qui apparaît ici. Il leur a donné pour qu'ils prêchent l'Évangile. C'est aussi ce qui apparaissait clairement dans lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Jésus leur avait promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous est donné pour être un témoin. Tout simplement, parler, dire, qui est Jésus, et ce qu'il a fait, et comment il sauve. Et si le Saint-Esprit, il est puissant pour repousser les ténèbres, chasser les démons, il est aussi présenté comme doux. Et paisible. Il est appelé le consolateur. Il est appelé celui qui nous donne du fruit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la bonté. Ce qui m'amène à ma troisième remarque. Annoncer l'Évangile, c'est partager la bonne nouvelle avec quelqu'un qui écoute. Annoncer l'Évangile, peut-être je dis une la palissade, mais annoncer l'Évangile, c'est présenter l'Évangile à quelqu'un qui écoute. Et tout le monde n'est pas disposé à écouter. Tout le monde a besoin d'écouter. Tout le monde a besoin d'entendre. Mais tout le monde n'est pas disposé. Et donc, notre travail dans l'annonce de l'Évangile, c'est de préparer des cœurs pour qu'ils puissent un jour être disposés. C'est de présenter nos vies telles qu'elles sont, pour que un jour elles suscitent un intérêt pour Dieu. Pour que, voyant nos bonnes œuvres, voyant nos attitudes, ils peuvent se dire, ah mais lui, il me semble qu'il m'a dit qu'il était chrétien, et là je vois qu'il réagit différemment, mais c'est intéressant, et j'aimerais bien en savoir davantage. Ça n'est pas débiter un discours sans avoir capté l'attention de la personne. Et pour capter l'attention de cette personne, il faut parfois vivre silencieusement. L'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire aimer, user de bonté, parfois renverser quelques a priori, prier et un jour parler. Si Christ est véritablement le sauveur du monde, s'il a changé les cœurs, nos cœurs, s'il a pardonné nos péchés, s'il nous a donné une glorieuse assurance face à la mort, s'il nous a donné son esprit, alors nous ne pouvons pas ne pas parler de lui à ceux qui nous entourent et que nous aimons. Ceux qui nous entourent juste là, dans notre famille, nos voisinages, mais aussi ceux qui sont au loin et qui ont besoin d'entendre parmi toutes les ethnies de la planète. Il n'existe pas de spectateurs parmi les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous nés pour nous multiplier, pour partager notre foi. Chaque disciple de Jésus existe pour faire des disciples de Jésus. Et c'est comme ça que l'Évangile se propage, par nos vies, quand elles sont ouvertes. quand on les montre fragiles, défaillantes parfois, et lorsqu'on reconnaît son état et que l'on place sa confiance en Jésus-Christ. Alors voilà la méthode de Jésus pour faire des disciples. Choisir un petit nombre. Être avec lui. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vivez une relation personnelle, quotidienne avec Jésus? Ou est-ce que vous lui rendez visite les dimanches? Comment pourriez-vous développer votre intimité avec Jésus? Est-ce que vous pourriez commencer aujourd'hui, ou est-ce que vous voudriez commencer aujourd'hui, en lui disant, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. Pardonne mes offenses. Sois mon maître, mon ami. Et puis, c'est vivre avec ses frères. Qui sont vos amis, vos frères, sœurs, qui vous voient vivre, avec qui vous pouvez avoir une relation authentique? Quels sont vos frères qui combattent à vos côtés, qui se réjouissent avec vous ou qui pleurent avec vous? À qui est-ce que vous allez vous ouvrir? À qui donnerez-vous accès à votre vie? Et puis, la méthode de Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle. À qui êtes-vous en train d'apporter un témoignage de Jésus-Christ? Avec qui cultivez-vous une amitié sincère en vue de partager ce que vous avez de plus précieux, Jésus-Christ? Vous savez, tous les disciples ont été défaillants. Ils ont pris la fuite au moment de l'arrestation de Jésus. Ils ont même nié le connaître, avec serment. Et nous aussi, on est bien comme eux, défaillants. Pas toujours très fidèles dans notre relation avec lui. Pas toujours très disposés à vivre avec nos frères. Pas toujours disposés à annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus est là, au milieu, justement, pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous aider à combattre ensemble, pour vivre avec lui. Jésus en a choisi 12 pour être avec lui, pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Alors, qui allez-vous choisir? Parmi vos frères et sœurs, parmi ceux de l'extérieur, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de développer une amitié, une relation avec vous et avec Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, tu connais nos cœurs parfaitement, Seigneur. Et puis tu nous aimes malgré tout. Tu connais nos vies et puis tu nous conserves ton amitié, ton amour. Tu connais nos pensées, tu connais nos projets. Et puis, Seigneur, tu nous secours, tu nous aimes, tu demeures avec nous. Tu nous utilises même pour être tes ambassadeurs, tes témoins. Seigneur, tu nous émerveilles. Et Seigneur, parce que tu es merveilleux, on voudrait tellement que d'autres apprennent aussi à le connaître. On voudrait apprendre à nos frères et sœurs, les encourager à découvrir encore et encore pendant ce pèlerinage ici-bas combien tu es merveilleux. Et Seigneur, on prie pour que chacun ici puisse trouver dans son entourage un cercle d'amis, d'intimes avec lesquels il peut partager sa foi, avec lesquels il puisse partager sa vie et progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, dans le témoignage rendu, dans la sainteté. Loué sois-tu et béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.